Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante. Ce samedi matin, dans cet ordre-là, vont s'exprimer Thierry, Sébastien, Églantine et Laetitia. Eh bien, bonjour.
Oui, absolument. Bonjour.
Bonjour
tout le monde. Thierry, Denis, les Français adorent les grands iris des jardins qui sont en pleine floraison, là, actuellement. Mais ils regrettent, semble-t-il, que leur floraison, justement, soit si courte. C'est la nature.
Un mois, pas plus. Enfin, c'est du moins ce que je croyais avant de découvrir l'étonnante collection d'iris du parc de la Source à Orléans. C'est un parc public de 35 hectares qui met autant la nature que l'horticulture en valeur.
Qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces iris, alors, du parc de la Source?
Ils peuvent fleurir deux fois, je dis bien deux fois dans l'année. La première maintenant, et rebelote, alors soit en septembre, en octobre ou en novembre, ça dépend des variétés. Donc ça fait deux fois plus qu'un iris ordinaire, et deux fois plus de plaisir.
Ils sont magiques, ils sont hypnotisés, il y a
ils
un truc.
Hybrides,
c'est quoi
ça? Alors justement, ça c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on aurait pu croire que c'était des moutons à cinq pattes introuvables. Pas du tout. Les responsables des iris du parc de la Source ont mis un point d'honneur à ne planter que des iris remontants, un, robuste, deux, que l'on peut acheter en France chez les pépiniéristes producteurs. Donc tous les jardiniers qui nous écoutent pourront en commander. Je rappelle que les iris, ça peut se planter dès juillet.
Et il y a beaucoup de choix ?
Près d'une centaine de variétés exposées.
Où voulez-vous que je mette ça, moi ? Il est complet, le jardin, là, déjà.
Mais il n'est pas plein d'iris.
Sébastien. Aller à l'essentiel. Planter peut-être juste deux, trois variétés, pas plus, mais éprouver. Une que j'adore, une super mignonne, Rosalie Fidge.
J'adore les prénoms.
Elle est bleue, c'est une super nana. Après, il y a Immortality. Immortality est aussi florifère, mais version blanc-crème, très doux.
Un petit caprice de ma part, tiens Thierry, justement. Les iris bicolores, c'est quand même sympa.
Le meilleur, c'est Duke of Earl. Il est bleu lavande avec un liseré rose violet.
Et ces iris là qui fleurissent à répétition, Thierry, on les cultive comme les iris bas de gamme ordinaires ?
Je vais être franc, il faut s'en occuper un tantinet pour ne rien sortir. D'abord, ne jamais les laisser souffrir de soif en été. Bon, faut pas bien sûr les noyer. En plus, plus il y aura de soleil, du matin jusqu'au soir, mieux ce sera. Et enfin, le secret, peut-être le vrai, c'est de les nourrir tous les ans avec des engrais organiques, pauvres en azote, mais riches en potasse et en phosphate. Fois en mars avant la floraison, puis une fois fin juin, début juillet, pour les rebooster.
Ça suffit pour les aider à fleurir deux fois dans l'année. Je suis sûr que vous nous cachez un truc.
Il y a un dernier secret.
C'est pas si facile.
Les diviser souvent. Tous les 2-3 ans, ils auront encore plus de vigueur.
On peut les voir donc au parc de la Source à Orléans, et peut-être en cherchant bien, vous trouverez Thierry Denis caché sous un coquelicot. Ils seront à nouveau à la fin de l'été là-bas au même parc de la Source, puisqu'ils n'arrêtent pas de fleurir ces merveilleux iris. Sébastien Demorand, de l'ail dans mon café, c'est sympa. Ça fait quand même 20 ans que je vous pratique. Je pensais que vous étiez au moins un copain, voire un début d'année.
Mais non.
Et vous voulez me faire boire du café à l'ail
Et pourquoi pas ? L'ail dont je vais vous parler, il est super doux.
Je vais même vous dire,
si vous aimez ça, comme moi, vous pouvez très bien croquer ces gousses d'ail telles quelles. Elles sont tendres, elles sont immaculées. Pourquoi ?
Meilleur moyen de rester fidèle à son conjoint.
Exactement.
Bah, le conjoint, il est courageux.
L'ail nouveau, les enfants, l'ail nouveau, c'est celui que vous trouvez en ce moment même sur les étals, au milieu des légumes frais. Les gousses, elles sont, vous savez, emmaillotées dans plusieurs chemises, comme on les appelle. Et ces chemises blanches sont tout à fait délicieuses. Si vous avez envie de les mettre par exemple dans une salade, vous achetez au marché un petit mesclun et puis quelques chemises comme ça taillées en fine lanière, ça apporte du peps à votre salade, un tout petit peu de piquant, c'est génial.
Et
non,
c'est parfait, on ne gâche rien.
Non, on gâche rien avec l'ail nouveau. La tige par exemple, vous pouvez la tailler en rouelles fines et par exemple mettre ces rouelles dans le jus d'un agneau rôti au four dernière minute, c'est génial. Et alors, on revient sur les gousses. Sachez que la tendreté de cet ail vient du fait qu'il a tout simplement pas eu le loisir de sécher. Il est donc plein d'eau, plein de flotte, et il n'a pas de germes.
Donc plus digeste.
Voilà, ceux qui disent que l'ail n'est pas digeste. Recette enfantine, et c'est toujours un clin d'œil à nos amis italiens avec une recette de printemps qui est géniale, qui s'appelle, et Églantine va nous traduire ça, olio e peperoncino.
De l'ail,
de l'ail, de l'huile.
Et du piment, voilà, exactement.
Des spellettes, j'espère bien.
Peut-être on va faire de l'espelette, Ça prend 10 minutes, regardez. Pâte très très fine, on va faire des spaghettini ou des capellini, d'accord? Vous allez émincer 5-6 gousses d'ail nouveau en fine fines lamelles, 1 ou 2 millimètres d'épaisseur. Puis, les faire revenir tout doucement dans de l'huile d'olive, dans une sauteuse. Elles doivent juste tiédir la tige de votre tête d'ail. Eh bien, vous allez tailler quelques lamelles, là aussi, très très fines, qu'on va utiliser à la fin. Les pâtes, on les cuit très al dente, on les égoutte à peine et on les mélange à notre huile aillée. Et là, vous allez terminer avec un peu de persil plat, quelques pincées, en effet, Thierry, de piment d'Espelette, en fonction de votre goût, un petit peu de fleur de sel pour terminer. Tout ça, vous mélangez bien, servi chaud, mais pas brûlant, pour que vous ayez tous les parfums, c'est très subtil. Et sachez qu'en Italie, on appelle aussi ces pâtes les spaghettis de minuit, parce qu'ils sont très simples à faire quand on a un petit creux, en rentrant de soirée.
Moi,
quand je rentre du resto, par exemple, je me fais ça à minuit.
Attendez, il était au resto pour travailler, pas
pour bosser.
Manger,
donc à minuit, j'ai faim. Quoi.
Voilà. Une petite recette, vite fait, sur le pouce, 10 minutes.
C'est extra.
C'est fabuleux, je vous jure.
Oui, c'est très bon.
Et la suite de Maison Jardin Cuisine, brocante dans une poignée de secondes. Ah, quel beau sujet d'Églantine Émeillée. Moi qui suis fan de montres et de couteaux, elle nous emmène au Festival International du Couteau. C'est à Thiers, bien entendu, dans le Puy de Dôme. Et puis, c'est jour de mariage princier du côté de chez les Windsor. Et du coup, ça inspiré la petite Laetitia. Je ne sais comment, mais enfin, on sera fixé dans un instant. À tout de suite. La suite de Maison Jardin Cuisine, brocante avec vous, Églantine Émeillée, que je suis bien volontiers ce matin en Auvergne, à Thiers, exactement.
À Thiers, exactement. Et en plus, il va faire beau. Et ce ne sont pas quelques malheureuses petites gouttes de pluie dans l'après-midi qui devraient perturber les festivités. Celle du plus important événement dédié au couteau dans le monde, le Festival International du Couteau d'Art et de Tradition Coutelier.
Vous aiguisez notre curiosité.
Tant mieux, parce que notre pays et ses régions possèdent une tradition ancestrale dans la fabrication de ces instruments. Et que c'est une chance de pouvoir découvrir leurs particularités dans ce haut lieu de la coutellerie française. Il y a 800 ans, Thiers était déjà connu pour ses nombreux ateliers. 800 ans quand même. Parmi les 220 exposants qui vous attendent, il y a plus de 20 pays qui vont défendre leur savoir-faire, notamment à travers un concours de création. Si j'ajoute à ça, de nombreuses animations, dont une exposition de couteaux anciens du 16 au 18e siècle, qui devrait vous ravir, Bernard, on ne peut qu'être conquis.
Et quand on parle couteau, forcément, on parle l'aïeul.
C'est vrai, les l'aïeuls, ce sont les dignes héritiers d'anciens couteaux traditionnels français. Est-ce que vous savez d'ailleurs qu'il y a un débat acharné qui divise les passionnés de l'aïeul? C'est une question. Quel est l'insecte emblématique qui est représenté en guise de décoration sur ces célèbres gouttes?
Une abeille. Non, moi j'avais entendu dire une
mouche. Il y en a même qui parlent d'un temps. Vous avez tous les trois raisons. Figurez-vous que le débat n'est pas tranché, tout simplement. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'effectivement, l'extrémité avant du ressort qu'il fallait tirer vers l'arrière pour permettre à la lame de se refermer, ça s'appelle une mouche.
C'est le nom de la pièce.
Mais on peut lui donner la forme d'une abeille à cette mouche si on a envie. Et personne n'est capable aujourd'hui de dire si c'est une mouche, une abeille ou un temps qu'on voit dessus.
On va voir d'autres modèles aussi connus, aussi impressionnants.
Ah oui, parce que rien qu'en France, l'offre de couteaux régionaux est tellement riche qu'il est impossible de les présenter en si peu de temps. Par ordre alphabétique, il y a la Genêt, du Lot-et-Garonne, l'Alpin, l'Ariégeois, le Basque, le Catalan, les couteaux corses, l'Opinal et bien sûr le Thiers. Tout ça, c'est juste une infime partie du choix immense qui s'offre à vous.
Si vous deviez n'en choisir qu'un, vous qui n'êtes pas amateur de couteaux particulier.
Alors je vais botter en touche et je vais me contenter de citer un collectionneur passionné qui résume à merveille l'attrait qu'on peut avoir pour ses couteaux. Voilà ce qu'il dit. Quand je tiens un couteau, j'aime sentir le bois et ses courbes dans ma main. J'aime l'ouvrir, le refermer, le toucher et couper avec un bon saucisson sec ou éplucher une belle pomme. Un couteau, c'est tout sauf anodin et impersonnel. Il a derrière lui une histoire, un savoir-faire, un territoire, un caractère et c'est ça que j'aime.
Ça fait 20 ans que dans ma poche j'ai un brossard, un petit couteau pliant et tout, et j'ai tellement peur de le perdre que j'ai cherché à acheter le même à l'identique. Malheureusement, il ne se fabrique plus.
Tenter. Le Festival International du Couteau d'Art et de Tradition, c'est donc à Thiers ce week-end. Et j'ai toutes les informations, je vous mets sur Internet.
Et demain, l'entrée est payante, certes, mais je pense que ça vaut le coup.
C'est magnifique.
Quelques euros. Si on est amateur de couteaux, ce qui est assurément le cas de pas mal d'auditeurs, j'imagine. Quant à vous, Laetitia Nallet, vous vous intéressez bien entendu samedi de mariage princier Harry et Meghan Markle. Ça vous plaît.
J'adore. Regardez les belles robes, les petites larmes d'émotion.
Comme disait il y a quelques minutes Stéphane Bern sur cette antenne, quand même les Windsor, ils savent faire du Technicolor.
En plus, tout le monde est sur son 31, la déco aussi. Bon, franchement, c'est l'époque des mariages. Comme j'imagine que vous n'avez pas tout à fait le même budget que la famille royale,
effectivement,
je vais vous proposer ce matin quelques suggestions à faire avec vos 10 doigts. Une règle de base pour éviter les grossières erreurs, choisir un thème et deux couleurs. Pour le thème, je propose celui qui est le plus en vogue en ce moment, c'est le thème champêtre.
Ouais, c'est bien.
Il est élégant, pas cher à réaliser. Mmh. On commence par l'église pour ceux qui, comme Harry, feront bénir leur union.
Pas sûr qu'eux aient choisi le thème champêtre. Hein. En tout cas, on met des mini bouquets accrochés au bout de chaque banc.
Exactement, ça c'est une très très bonne idée. On les compose cette année avec des fleurs séchées, ce qui permet de les installer la veille. Ensuite, on peut poser un tapis en toile de jute sur le sol de l'église.
Dans l'allée centrale.
Dans l'allée centrale.
J'adore l'idée.
Vous en trouverez sur des sites spécialisés avec même des tapis sur lesquels vous pouvez faire graver vos initiales, les initiales des mariés. Ça coûtera 150 euros.
Ça vaut le coup.
Mais double emploi parce qu'après vous pourrez l'emporter et le remettre dans le jardin menant à la salle de réception.
C'est
pas mal. C'est pas mal.
Et il faut du riz pour la sortie de l'église, non ?
Oui, riz,
du basmati.
Oui, du basmati, de l'arborio, je sais pas.
Pétales de rose. Ou alors moi j'ai une proposition plus aérienne et surtout il y aura pas besoin de balayer derrière. Ce sont les bulles de savon.
Oh, j'ai fait ça, c'est génial.
Ah, c'est chouette, ça.
Tous les invités avec des bulles de savon, c'est magnifique.
C'est génial. Alors évidemment, si on passe pas par la case église, toutes les idées sont à reprendre pour décorer la salle. Il faut toujours numéroter les tables ou donner un nom pour que les invités trouvent leur place. Mmh. Je vous propose d'entourer les bouteilles posées sur la table de toile de jute en inscrivant le numéro ou le nom de la table en grosses lettres.
Oui.
En centre de table, vous pouvez poser des petites cagettes remplies de pots de thym, de menthe, de romarin et autres plantes aromatiques.
Ça, c'est bien.
Et pour cacher le mur, si on est dans une salle pas terrible, pas très déco.
Avec des lambris.
Alors, vous pouvez. Non, c'est vrai, ça arrive.
Bah oui, ouais.
Vous pouvez agrafer au mur ou si c'est pas possible directement au plafond des rubans de crépons de couleur, par exemple du rose, du blanc. Vous alternez comme ça et le lendemain vous n'aurez plus qu'à enlever les agrafes en grimpant sur une échelle.
Ça,
et l'avantage, ça je l'ai vraiment fait, c'est que ça n'abîme pas. En fait.
On aurait pu aussi peut-être mettre des rideaux.
Ouais, alors les rideaux c'est beau, mais là il faut prévoir un vrai système d'accroche. C'est pas toujours très facile parce que le tissu est très lourd. Non, le papier de crépon, franchement, Thierry, ça fera de l'effet tout en étant ultra léger. Si vous voulez le faire avec du tissu, vous prenez du tulle ou du tarlatane. Ça aussi, c'est léger. Ou alors sinon, l'autre bonne idée, c'est un mur de ballons. Vous gonflez les ballons, un à un, et vous scotchez
mais
la ficelle.
Mais les niards vont les
c'est ce que j'étais en train
c'est
de me
ça
dire.
Le problème. Si vous scotchez la ficelle comme ça sur les murs, un par un, les ballons, les uns alignés les uns au-dessus des autres, mais c'est super beau.
Non, mais les niards, comme vous dites, vous demandez aux enfants de les gonfler un par un, ils en ont 200 à faire, ils font gaffe.
Ça, c'est pas bête, ça. C'est de la psychologie bien, bien basique. Merci beaucoup pour tous ces conseils et ces idées, mes amis. Revenez avec plein d'autres choses demain.
Et demain.
Même antenne. Bye.